RCF.
Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la chronique de la Maison de l'Europe, Centre Europe Direct Limousin. Et cette semaine, nous allons parler de la conférence sur l'avenir de l'Europe avec le président de la Maison de l'Europe, Daniel Bernussou. Bonjour.
Et bonjour.
Alors, la conférence sur l'avenir de l'Europe, on devrait en avoir beaucoup entendu parler, mais c'est pour l'instant pas le cas. Expliquez-nous un peu de quoi il s'agit.
Oui, alors la conférence sur l'avenir de l'Europe, c'est une consultation publique qui permet de donner la parole aux citoyens européens afin qu'ils fassent savoir dans quelle Europe ils souhaitent vivre. Beau programme, Estelle. La Commission en propose régulièrement des consultations, hein, ça n'est pas une nouveauté dans la gouvernance de l'Union. Elle en propose quand elle sollicite les citoyens et les acteurs concernés par telle ou telle politique, par telle ou telle mesure, ou comme en 2018 d'ailleurs, avec les consultations citoyennes sur l'Europe. Mais la conférence sur l'avenir de l'Europe va très au-delà de la simple consultation. Il s'agit de susciter un débat à grande échelle. Ce sera un débat pan-européen, 27 États membres, un débat ouvert dans ses thématiques et ses sujets, un débat construit avec plusieurs espaces articulés de discussion et un débat ambitieux dans sa finalité, puisqu'il doit déboucher sur les orientations concernant l'avenir de l'Europe, voire, j'ouvre les guillemets, des propositions de changement sans tabou, pas même la révision des traités. Quelle affaire. C'est donc, on peut le dire, un grand exercice de démocratie participative qui, selon le sondage Eurobaromètre de l'automne 2020, est perçu par les deux tiers des milliers de répondants comme susceptible de renforcer la démocratie en Europe.
Alors pourquoi cet exercice citoyen a-t-il été organisé finalement? Comment on en est arrivé là?
Alors, l'idée de la conférence a été avancée par le président français dans le contexte des élections européennes de mai 2019. Il y avait quelques craintes, hein, souvenez-vous. Dans sa lettre aux Européens, il développe l'analyse selon laquelle, j'ouvre les guillemets, « jamais depuis la Seconde Guerre mondiale, l'Europe n'a été aussi nécessaire et pourtant jamais l'Europe n'a été autant en danger ». Alors l'idée est reprise à la fin de l'année 2019 par la nouvelle commission, von der Leyen, et soutenue par une majorité d'eurodéputés, et ce d'autant plus facilement que 9 Européens sur 10 estiment que les voix des citoyens de l'Union devraient être davantage prises en compte. C'est une constante, hein, ça fait déjà plusieurs années. Hein. Il s'agit donc de, voilà les guillemets, reconnecter les citoyens avec le projet européen. Pour cela, il convient de dépasser l'exercice cosmétique de la consultation top-down, hein, comme on dit en bon français, hein, du haut vers le bas. Mais la crise sanitaire, des discussions difficiles sur l'organisation entre la Commission, le Parlement européen et le Conseil de l'Union ont freiné l'avancée du projet. Et le lancement de la conférence, initialement prévue en mai 2020, n'a eu lieu qu'en mai 2021.
Une petite année de décalage donc. Mais oui. Maintenant, c'est parti, c'est lancé en vrai. Comment les citoyens comme nous, comment n'importe qui peut participer, puisque le but c'est bien que n'importe quel citoyen européen puisse participer à cette conférence.
Je vois que vous avez bien compris. Alors il peut participer de plusieurs manières et à plusieurs niveaux. Il peut participer, ce citoyen européen, sur une plateforme, directement sur une plateforme numérique multilingue interactive. Il va y livrer ses idées, ses propositions, et grâce à la traduction, quasi instantanée, on peut dire, il va découvrir et réagir aux propositions et idées émises de tous les coins de l'Union. Alors, le site de la plateforme, hein, c'est futureux.europa.eu. Ce citoyen, il peut aussi participer, soit en ligne, soit en présentiel, à des événements décentralisés, organisés par des citoyens, par des associations, dont la Maison de l'Europe, bien sûr, ou par des autorités publiques. Ainsi, à la mi-septembre, pendant 3 jours, dans chacune des 18 régions françaises, s'est tenu un débat citoyen avec panel de 30 à 50 personnes tirées au sort. La restitution des travaux a été faite d'ailleurs le week-end dernier à Paris par 100 de ces quelques 830 ou 40 participants aux débats régionaux. Alors, pour nourrir la réflexion et la discussion, 10 thématiques sont proposées. Je peux vous les donner, c'est un peu rébarbatif, mais ça dit des choses quand même. Dites-moi, Estelle, vous les voulez ?
Allez, dites-nous les 10 thématiques. Finalement, elles recouvrent une bonne partie de nos préoccupations quotidiennes.
Absolument, absolument. Et pratiquement l'ensemble du spectre des problèmes européens. Alors, première thématique, le changement climatique et l'environnement. Deuxième thématique, la santé. Troisième thématique, une économie plus forte, justice sociale et emploi. Et puis l'UE dans le monde. Et puis valeurs et droits, état de droit, sécurité. Et puis transformation numérique. Et puis démocratie européenne. Et puis migration. Et puis évidemment éducation, culture, jeunesse et sport. Et la dixième boîte, eh ben, c'est autres idées. Autres idées.
Donc finalement, on peut aborder n'importe quel sujet dans cette conférence sur l'avenir, sous réserve quand même que ça soit de la compétence européenne, parce que sinon ça va être un peu inutile.
Ah oui, oui, il faut que ça rentre quand même effectivement dans les compétences européennes. Et toutes ces contributions, pour certaines décalées, comme vous l'envisagez, l'analyse sera réalisée grâce à l'intelligence artificielle dans les services de la Commission et débouchera sur des rapports qualitatifs qui seront transmis à des panels de citoyens européens.
D'accord. Alors justement, on a cette plateforme sur laquelle on peut enregistrer ses contributions et lire celles des autres. Mais ça ne s'arrête pas là. Les citoyens continuent à s'impliquer dans la suite de cette conférence sur l'avenir.
Voilà. Et ils le font au niveau européen. En effet, des panels européens sont composés de 200 personnes, dont un tiers ont entre 16 et 25 ans, la belle jeunesse donc. Ces citoyens européens sont choisis de manière aléatoire, tout en étant nécessairement représentatifs de la diversité de l'Union européenne. Alors en termes d'origine géographique, il est hors de question évidemment que les Lettons soient plus représentés que les Allemands, on comprend pourquoi. En termes socio-économiques, en termes d'âge, en termes de niveau d'éducation et évidemment de genre. Alors au nombre de 4, les panels européens se réunissent en 3 sessions entre mi-septembre et mi-janvier. Ils travaillent avec des experts, évidemment, et chaque panel planche sur un des 4 thèmes suivants. Premier thème, valeurs, droits, état de droit, démocratie, sécurité. Deuxième thème, changement climatique, environnement, santé. Renforcement de l'économie, justice sociale, emploi, éducation, jeunesse, culture, sport, transition numérique, tout ça. Et enfin, l'UE sur la scène internationale, migration. Et puis, ces citoyens, des citoyens, sont aussi présents dans l'assemblée plénière de la conférence qui débat, qui travaille sur les recommandations faites par les panels citoyens. Alors, cette assemblée, elle comporte plus de 440 membres. La composition, je vais peut-être vous en dispenser, si ce n'est quand même que de souligner qu'il y a 108 citoyens. 108 citoyens, donc pratiquement le quart. 80 seront des représentants des panels de citoyens européens. 27 des représentants de panels nationaux de citoyens ou d'événements de la conférence. Plus, j'y tiens quand même, le président du Forum européen de la jeunesse, qui sera là. Alors les autres composantes, c'est un quart de députés européens, un quart de députés nationaux, et puis des représentants des organes consultatifs classiques, plus... 24 représentants des partenaires sociaux, 12, et représentants de la société civile, 12.
On est très loin là de justifier le reproche qui est souvent fait à l'Europe d'être technocratique.
Ah, sur cette manifestation, quelquefois elle le mérite, mais sur cette manifestation, non.
On a dit que la conférence a été lancée le 9 mai dernier. Comment tout ça s'articule? Quelle est la chronologie des événements?
Alors la conférence a été lancée le 9 mai 2021, effectivement par le président français, entre autres à Strasbourg. L'assemblée plénière inaugurale a eu lieu le 18 et 19 juin. La première session des panels européens s'est tenue en octobre, sur 4 week-ends, un week-end par panel. Une deuxième suivra en novembre, la dernière aura lieu en décembre-janvier. L'assemblée plénière, le week-end prochain, va travailler à partir des recommandations, des premières recommandations issues des panels de citoyens européens, nationaux et des contributions sur la plateforme, n'oublions pas la plateforme. 3 autres réunions suivront en décembre, janvier et février. Et en avril 22, l'Assemblée plénière remettra les propositions forgées lors des réunions successives. Alors à qui? Eh bien à un conseil, on dit aussi un comité scientifique, composé de 3 représentants du Parlement, 3 représentants du Conseil de l'Union, 3 représentants de la Commission, plus des observateurs par institution. Ce conseil aura pour tâche d'élaborer des rapports, le rapport final de la conférence qui sera adopté par consensus, publié sur la plateforme numérique, c'est le moins qu'on puisse faire, et qui sera remis aux 3 présidents des 3 grandes institutions européennes, à charge pour eux de porter ce rapport et de le défendre politiquement, enfin du moins de le traduire politiquement devant leurs institutions respectives.
Effectivement, programme chargé. Alors juste en quelques mots, parce qu'il nous reste peu de temps, où en est-on? Est-ce qu'on peut tirer le bilan?
En quelques mots, il est beaucoup trop tôt pour faire un bilan d'étape du point de vue des travaux. Hein, il y a des choses qui ont été faites. On peut se rendre sur le site que j'ai signalé tout à l'heure pour voir combien de participants, combien d'événements, etc. Je passe. Par contre, je voudrais insister sur l'implication des citoyens. Si l'on en croit le sondage Eurobaromètre, 51%, donc plus de la moitié, sont prêts à participer. Sauf que d'un pays à l'autre, la différence est énorme. Nos amis irlandais, ils sont à 80% pour la participation. Nos amis bulgares, ils sont à 34%. Et nos amis français, Estelle, savez-vous?
Oh. Hein?
Eh bien, je vais vous le dire, on est à 41% pour participer, on est à 58% pour refuser de participer. Vous voyez le boulot qui reste à la MDE et à toutes les structures pour convaincre qu'il y a là une occasion offerte, qu'il faut saisir de faire entendre sa voix. Il ne s'agit pas simplement de râler, il s'agit aussi de faire entendre sa voix, quitte pour râler, évidemment, et ne pas donc négliger ce grand événement démocratique qu'est la conférence sur l'avenir de l'Europe.
Le très très français Clémenceau disait « Quand on a l'honneur d'être vivant, on s'exprime ».
Ah, je vois que vous aimez Clémenceau, c'est un bon choix.